Les contes ne sont pas faits.
Les contes ?
Pour endormir les enfants.
D'Albatros.
Mais pour réveiller les adultes.
Les contes d'Albatros.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sûr Radio Campus Rennes. Je suis Albatros et comme tous les mardis midi, à l'heure où la sieste pointe, je m'en vais vous conter toutes les histoires, fables et légendes que j'ai pu glaner au fil de mes recherches, que j'ai pu glaner au fil de mes voyages. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et même si vous avez encore les yeux remplis des étoiles du sapin et le ventre plein à craquer des bons repas de Noël, l'hiver est encore, toujours, inexorablement, indéniablement là, avec ses peurs, avec ses fables et avec ses légendes. Et c'est donc pour se rire un peu du froid de l'hiver que je vous propose aujourd'hui une petite compilation de contes et poèmes autour du loup. La figure du loup est présente depuis très longtemps dans la littérature populaire. Nous avons d'ailleurs déjà exploré sa figure, dans cette émission même, lors du premier conte consacré au petit chaperon rouge. Le loup apparaît comme la figure énigmatique, effrayante, qui représente l'obscurité, l'inconnu, le danger, la peur. Mais le loup, quand il apparaît dans les contes, s'il montre souvent ce qu'il ne faut pas faire, il apparaît souvent comme tourné en ridicule à la fin. Les leçons sont certes bonnes à apprendre, mais il faut que les enfants puissent s'endormir le soir, tout de même. Alors approchez vos oreilles du transistor, fermez à double tour les portes de vos maisons qui sont, je l'espère, en briques et non en paille, car une histoire va commencer. Le bûcheron vivait une existence paisible, heureuse. La vie dans la forêt n'était évidemment pas facile. Les rigueurs de l'hiver lui attaquaient son vieux dos meurtri et ses mains pleines de cale travaillaient chaque jour inexorablement pour couper du bois, aller le vendre et ramener le surplus à la maison pour chauffer sa famille. Car oui, s'il vivait dans la froideur de l'hiver, il avait le plaisir de pouvoir rentrer tous les soirs dans la chaleur de sa petite maison. Sa femme, Toinon, l'attendait, avec leur fille, leur jeune bébé, qu'il venait d'avoir à la fin de l'automne. La vie était certes frugale, mais le bûcheron était heureux. Mais un soir d'hiver, où la nuit était encore plus noire que d'habitude, où la lune ne perçait que difficilement à travers les nuages grossis par la pluie menaçante, le bébé s'est mis à pleurer. Pleurer toutes les larmes de son corps, pleurer comme pour chasser le démon. Il pleurait, et sa mère, Toinon, ou son père le bûcheron, avait beau le bercer, lui chanter des histoires, le caresser, lui chanter des chansons, rien, impossible de calmer l'enfant qui pleurait de plus belle, qui pleurait, qui criait, qui s'égosillait. Et son cri, sa petite voix fluette, s'élevait dans la nuit, au-dessus de la maison, seule éclairée au milieu de la forêt obscure. Et ses cris, vous vous en doutez bien, n'ont pas tardé à attirer le loup. Le loup de ces forêts-là, des forêts froides du nord. Ces forêts du nord où la lune ne perce que difficilement à travers les nuages gonflés d'une pluie menaçante. Le loup aux yeux jaunes s'avance dans la nuit noire, attiré par les cris du bébé. Le bûcheron s'est bien douté que le bruit allait attirer les bêtes, et c'est lorsqu'il jette un coup d'œil à travers la vitre dans la nuit noire qu'il aperçoit la bête qui s'approche de sa maison, inexorablement. Alors branle-bas de combat, c'est la panique. Il calfeutre la porte, la bloque avec des chaises, avec une armoire, avec tout ce qu'il peut trouver. Sa femme lui prête main forte tout en essayant de consoler l'enfant qui crie toujours toutes les larmes de son corps. Mais le loup s'approche et commence à gratter à la porte, gratter avec ses pattes griffues, ses pattes sales et la langue pendante, dégoulinante de bave sur le côté de sa bouche et les yeux jaunes, ses yeux toujours aussi jaunes qui brillent dans la nuit et qui ont faim de cet enfant qui pleure. Et le loup gratte à la porte commence à céder, le loup tape de son épaule musclée contre les gonds de la porte, qui cède, un à un, et la porte commence à s'écrouler, le bûcheron et Toinon paniquent, le bébé pleure de plus belle, et le loup arrive à glisser une patte griffue et velue à travers l'embrasure de la porte cassée. Le bûcheron doit réagir, sinon ils y passeront tous les trois dévorés dans le ventre de la bête. Il jette un coup d'œil circulaire dans la pièce, et aperçoit la soupe du soir, bouillante, qui chauffe à gros bouillons sur le feu de la cheminée. Alors il crie à sa femme « Toinon, vite, la soupe !» Et Toinon pose le bébé dans le berceau, prend la marmite de soupe, énorme, lourde et bouillante, et la jette sur le loup. Le loup, ébouillanté, pousse un long hurlement de douleur qui s'élève sous la lune dans la nuit. « Aouh !» et s'enfuit en courant la queue entre les jambes, le poil déjà qui commence à roussir. Il a fière allure, le loup. Le bûcheron sait que cette accalmie n'est que passagère. Alors il calfeutre la porte tant qu'il peut pour éviter les courants d'air et retourne se coucher avec sa femme et sa fille. Et sa vie de bûcheron continua. Il n'entendit plus vraiment parler du loup, même si parfois, par les nuits sombres, on entend un hurlement par-delà les montagnes. Mais un jour, il part de nouveau couper du bois. Mais cette fois-là, quelque chose est différent. Il se sent comme observé. Il a beau abattre un premier arbre. Un, deux, trois. Abattre un deuxième. Un, deux, trois. Puis un troisième. Un, deux, trois. Impossible d'enlever de sa tête ce sentiment d'être observé. Et finalement, la nuit tombe, il ramasse les fagots et les bûches pour les ramener chez lui, lorsque s'allume dans l'obscurité de la forêt une paire d'yeux jaunes. Le loup est revenu, se dit-il. Sauf qu'à ses côtés s'allume une deuxième paire d'yeux jaunes, puis une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième. Des dizaines, une douzaine de loups l'entourent, l'encerclent parfaitement. Un cercle jaune d'yeux farouches qu'il observe dans la nuit. Et les loups s'avancent, un à un. Ils s'approchent de lui, le pas lent mais assuré, et les babines retroussées qui montrent des crocs tranchants. Le bûcheron commence à avoir peur. Il faut qu'il s'échappe, mais les loups sont tout autour de lui. Il n'y a plus qu'une solution. Il escalade un arbre. Il monte, arrive à la moitié de l'arbre et regarde les loups. Les loups l'observent d'en bas, crient un instant. Puis il voit arriver un autre loup, un loup qu'il n'avait pas vu. Un loup à qui il manque des poils par plaque entière. Un loup à la peau roussie, à la tête rougie. C'est le loup de la soupe, le loup à qui il avait déjà joué un mauvais tour par le passé. Et ce loup-là a l'air encore plus méchant, encore plus malin, encore plus vil que tous les autres. Et ce loup s'accroupit au pied de l'arbre. Et d'un geste de la tête fait comprendre aux autres loups qu'ils n'ont qu'à lui monter dessus pour arriver finalement jusqu'au bûcheron perché dans l'arbre. Les loups ne peuvent pas grimper aux arbres, mais les loups peuvent s'entasser jusqu'à atteindre le bûcheron. Et les loups font ça. Le loup pelé tout en bas et les autres qui lui montent dessus, les uns après les autres. Et plus ils se montent les uns sur les autres, plus ils approchent du bûcheron qui se voit obligé de monter tout en haut de l'arbre, toujours plus haut, jusqu'à la cime de l'arbre qui balance au vent, ballotté par les bourrasques de vent. Mais il n'a pas le choix, il s'accroche, il faut qu'il tienne bon. Et les loups, toujours plus haut, s'entassent les uns après les autres et s'approchent toujours plus près des mollets du bûcheron, qui n'en a plus pour longtemps s'il n'a pas une des lumineuses. Et il la voit, cette pyramide étrange et absurde de loups, le loup pelé à sa base et les loups plus petits en haut qui cherchent ses mollets. Et l'idée lumineuse, soudain, il l'a. Il gonfle ses poumons et crie d'une voix claire. « Toi non, vite, la soupe !» Et le loup pelé à la base de la pyramide, en se rappelant la douleur terrible qui s'en est suivie la dernière fois qu'il a entendu cette phrase, pousse un long hurlement dans la nuit. « Ah !» et part en courant, s'enfuit à toutes jambes, la tête basse et la queue entre les jambes. Et tous les loups de la pyramide, la base s'étant enfuie, s'écroulent et tombent dans le ciel comme une tempête de neige étrange. Les loups se relèvent, endoloris, gémissant, chouinant, et repartent dans leur caverne pour ne plus jamais embêter le bûcheron ni sa famille. Le bûcheron est redescendu de son arbre, et rentré chez lui en courant, et après avoir bien refermé sa porte à double tour, il dit à sa femme, mais cette fois-ci d'un ton doux et aimant, « Toi non, vite, la soupe. »
Je suis un loup qui jadis était très méchant, mais qui par malheur un jour s'est cassé les dents. Sur une grand-mère solide comme un roc, tout est à l'envers, c'est une triste époque. J'étais loup méchant, je suis maintenant gentil chien. Elle me promène et je lui mange dans la main. Si je ne file pas droit ou bien si j'ai tort, tout est à l'envers, c'est elle qui me mord.
Pauvre loup, pauvre loup,
pauvre loup. J'ai jamais vraiment mangé le chaperon rouge. Ça c'est des histoires qu'on raconte au fond des bouches. Ce petit enfant blond était loin d'être bête. Il n'a jamais tiré cette sacrée chevillette. Écoutez la complainte d'un loup qui vit l'enfer. Et débarrassez-moi vite de cette grand-mère. Je suis prêt à tout, à ramper, à me tordre. Mais je vous en prie qu'elle cesse de me mordre. Pauvre loup,
pauvre loup,
pauvre loup.
Il était une petite fille, pas plus haute que ça, qui aimait bien se promener dans la forêt. Elle n'avait pas beaucoup d'amis et la forêt, ma foi, comblait tous ses désirs. Suffisamment de merveilles pour les yeux, suffisamment de merveilles pour les oreilles. Alors elle s'y promenait toute la journée, heureuse et ébahie, gambadant dans les feuilles, en écoutant le crissement des insectes ou le chant des oiseaux. Entre le piaillement aigu du rossignol ou le lugubre chant du hibou quand la nuit tombe. Mais cette fois-là, dans la forêt, il y a un bruit différent. Un grand bruit qui résonne à travers les arbres. Un bruit métallique, un bruit terrible. La petite ne sait pas ce que c'est, mais elle est curieuse. Sa forêt, elle la connaît par cœur, et ce bruit-là, elle ne le connaît pas. Alors elle s'approche de ce bruit, et plus elle s'approche, plus le bruit se fait fort. Des grands tintements métalliques, des grands coups donnés sur du fer qui résonnent à travers les arbres. Alors elle s'approche sur la pointe des pieds et arrive dans une clairière. Et au milieu de cette clairière, une cage en fer énorme, un piège. Et dans cette cage est enfermé un loup. Et le loup, énorme et terrible, fou furieux de s'être fait prendre au piège, essaye de se libérer de la cage. Et les barreaux, il les pousse, et il les tape, et il les mord. Mais les barreaux sont résistants et ne cèdent pas. Alors le loup fou furieux, il les pousse, et il les tape, et il les mord. Mais la cage ne cède pas. Quand le loup, entre deux accès de fureur, aperçoit la petite fille, alors il lui fait un signe du doigt et lui dit « Approche !» La petite fille, interloquée, fait un pas vers le loup. « Approche encore !» La petite fille fait un deuxième pas. « Plus près, gamine, plus près !»«
Non merci, monsieur le loup, qu'est-ce que vous me voulez ?»«
Libère-moi, s'il te plaît. Je suis pris au piège dans cette cage depuis 3 jours. Libère-moi, gamine, je t'en supplie. »
Ça ne me paraît pas vraiment une bonne idée, monsieur le loup, car si je vous libère, eh bien vous allez me manger.
« Eh bien non, je te le promets, petite fille. Promis, je ne te mangerai pas. »«
Vous me le promettez ?»
Promis, juré.
Certains l'appelleront naïve. Moi, je dirais simplement que la petite fille avait un grand cœur. Alors elle s'approche de la cage et de ses petits doigts agiles déverrouille la porte et l'ouvre en grand. Le loup, libéré, sort de la cage, déplie son dos, fait craquer son cou et ses doigts et s'adresse à la petite fille en ces termes.
« Eh bien, merci, petite fille, tu m'as libéré. » « Maintenant, je vais te manger !»«
Quoi ? Mais vous m'aviez dit que vous ne mangerez pas, vous m'avez juré !»«
Eh bien, j'ai menti, j'ai faim !»«
Attendez, monsieur le loup, ça me paraît vraiment pas juste comme histoire. Vous m'avez fait une promesse et vous ne l'avez pas tenue. Il faudrait prendre un arbitre pour juger de cette situation. Nous allons demander au cochon là-bas. »
Il y avait un cochon dans la forêt. Un gros cochon aux oreilles pendantes, aux gros groins, à la bedaine et à la queue en tire-bouchon. Et la petite fille et le gros loup se rendirent donc devant le cochon.
« Bonjour, monsieur le cochon.
Bonjour petite fille, comment ça va ?
Bah ça va pas trop en fait, voilà, je vous explique mon problème. Le loup a promis qu'il me mangerait pas, je lui ai ouvert, maintenant il veut me manger. Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?
Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?
Répète le loup.
Alors le cochon réfléchit un instant. Mais le cochon avait très peur du loup. Il ne voulait surtout pas dire quelque chose qui puisse mettre le loup en colère. Alors le cochon dit
« Non, le loup a raison. Le loup a toujours raison. Le loup doit manger la petite fille. Point final. »
« Ah, tu vois, je t'avais dit...
Attendez, monsieur le loup. Ça me paraît vraiment pas juste comme histoire, toujours pas. On va demander son avis au coq, là-bas. »
Il y avait un coq dans la forêt. Les contes sont quand même bien faits. Alors la petite fille et le gros loup se rendent devant le coq, à la crête fière et aux plumes colorées.
« Bonjour, monsieur le coq.
Bonjour, petite fille. Comment ça va ?»«
Bah, ça va pas trop, je vous explique mon problème. Le loup avait promis qu'il me mangerait pas, je lui ai ouvert, maintenant il veut me manger. Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?»«
Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?»
répète le loup.
Alors le coq réfléchit un instant.
«
Mais le coq avait très peur du loup. Il ne voulait surtout pas dire quelque chose qui puisse mettre le loup en colère. Alors le coq dit
« Non, le loup a raison. Le loup a toujours raison. Le loup doit manger la petite fille. Point final. »«
Ah, tu vois, je t'avais dit.
Attendez, monsieur le loup. Ça me paraît vraiment pas juste comme histoire. On va demander son avis au singe là-bas. »
Il y avait un singe dans la forêt. Un singe avec des grands yeux, le front plat et les doigts osseux. Alors la petite fille et le gros loup se rendent devant le singe.
Bonjour monsieur le singe.
Bonjour petite fille. Comment ça va ?
Eh ben ça va pas trop, je lui explique mon problème. Le loup a promis qu'il me mangerait pas, je lui ai ouvert, maintenant il veut me manger. Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?
Est-ce que ça vous paraît juste comme histoire ?
Répète le loup. Alors le singe réfléchit un instant. Le singe avait très peur du loup, mais le singe était également très rusé. D'ailleurs, on dit malin comme un singe. Alors le singe s'est adressé directement au loup.
« Mais dites-moi, monsieur le loup, vous me dites que vous étiez coincé dans une cage, n'est-ce pas ?»«
Ben oui. »«
Et où est-elle, cette cage ?»«
Ben, elle est par là. »«
Pourrais-je la voir ?»«
Ben oui. »
Et la petite fille, le gros loup et le singe malin se rendent devant la cage, restée vide et ouverte au milieu de la clairière.
« Ben la voilà. »
« Mais dites-moi, sans vouloir paraître indélicat, vous me paraissez bien gros, et cette cage me paraît bien petite. Je ne pense pas que vous puissiez rentrer dedans. »«
Ben si, j'étais coincé. »«
Je ne vous crois pas. »
Alors le loup, pour donner tort au singe, se plie, se contorsionne et se tord, et rentre tant bien que mal dans la cage.
« Vous voyez que je peux rentrer dedans ?»
Rapide comme l'éclair, en deux temps trois mouvements, le singe saute sur la poignée, ferme la porte et ferme le verrou à triple tour. Et le temps que le loup se rende compte de sa bêtise, le singe rit aux éclats et son rire joyeux et clair s'envole vers le ciel. Et quand le loup s'est rendu compte de sa bêtise, quand le loup s'est rendu compte qu'il est de nouveau enfermé, fou de rage, les barreaux, il les pousse, il les tape, il les mord, mais la cage est de bonne facture et ne cède pas. Alors le loup, à travers les barreaux, regarde la petite fille et, d'un signe de doigt, lui dit
« Approche !»
La petite fille fait un pas.
« Approche encore !»
La petite fille fait un deuxième pas.
« Approche, gamine, je te dis !»«
Non merci, monsieur le loup, qu'est-ce que vous me voulez ?»«
Ouvre-moi, petite. Promis, cette fois-ci, je ne te mangerai pas. »
Pensez-vous que la petite ait ouvert la cage la deuxième fois ? Eh bien non. Elle a laissé le loup mariner dans ses erreurs, dans sa cage, enfermée pour qu'il réfléchisse à ses actions. Et est parti avec le singe manger des bananes.
Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On
dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Il y a des hommes, faut voir comme ils ont la dent dure, 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 dure. Ils ont la dent dure, garantie sur facture. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Il y a des dames, c'est un drame, qui porte un manteau, toto, 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 qui porte un manteau de ta peau sur le dos. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant. Chasseurs, enfants de cœur, j'en ai pas connu, nu, 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 j'en ai pas connu, et j'en ai jamais vu. Je t'aime mon loup, mon gros loup, mon petit loup. Je t'aime mon loup, mon gros loup, petit loup. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit que t'es mauvais, c'est pas vrai, pas vrai. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, c'est navrant. Pareil que t'es méchant, c'est navrant, navrant.
La mort du loup. Les nuages couraient sur la lune enflammée comme sur l'incendie on voit fuir la fumée. Et les bois étaient noirs jusque à l'horizon. Nous marchions, sans parler, dans l'humide gazon, dans la bruyère épaisse et dans les hautes brandes, lorsque, sous les sapins pareils à ceux des Landes, nous avons aperçu les grands ongles marqués par les loups voyageurs que nous avions traqués. Nous avons écouté, retenant notre haleine et le pas suspendu. Ni le bois, ni la plaine ne poussaient un soupir dans les airs. Seulement la girouette en deuil criait au firmament, car le vent, élevé bien au-dessus des terres, n'effleurait de ses pieds que les tours solitaires, et les chênes d'en bas, contre les rocs penchés, sur leurs coudes semblaient endormis et couchés. Rien ne bruissait donc, lorsque, baissant la tête, le plus vieux des chasseurs qui s'était mis en quête a regardé le sable en s'y couchant. Bientôt, lui, que jamais ici on ne vit en défaut, a déclaré tout bas que ses marques récentes annonçaient la démarche et les griffes puissantes de deux grands loups cerviers et de deux louveteaux. Nous avons tous alors préparé nos couteaux et, cachant nos fusils et leurs lueurs trop blanches, nous allions pas à pas en écartant les branches. Trois s'arrêtent, et moi, cherchant ce qu'ils voyaient, j'aperçois tout à coup deux yeux qui flamboyaient. Et je vois au-delà quatre formes légères qui dansaient sous la lune, au milieu des bruyères, comme font, chaque jour, à grand bruit sous nos yeux, quand le maître revient les lévriers joyeux. Leur forme était semblable, et semblable la danse, mais les enfants du loup se jouaient en silence, sachant bien qu'à deux pas, ne dormant qu'à demi, se couche dans ses murs l'homme, leur ennemi. Le père était debout, et plus loin, contre un arbre, sa louve reposait comme celle de marbre qu'adoraient les Romains, et dont les flancs velus couvraient les demi-dieux, Rému et Romulus. Le loup vient et s'assied, les deux jambes dressées par leurs ongles crochus dans le sable enfoncé. Il s'est jugé perdu, puisqu'il était surpris, sa retraite est coupée et tous ses chemins pris. Alors il a saisi dans sa gueule brûlante du chien le plus hardi la gorge pantelante et n'a pas desserré ses mâchoires de fer, malgré nos coups de feu qui traversaient sa chair et nos couteaux aigus qui, comme des tenailles, se croisaient en plongeant dans ses larges entrailles, jusqu'au dernier moment où le chien étranglé, mort longtemps avant lui, sous ses pieds a roulé. Le loup le quitte alors, puis il nous regarde. Les couteaux lui restaient au flanc jusqu'à la garde. Le clouait au gazon, tout baigné de son sang, nos fusils entourés en sinistre croissant. Il nous regarde encore. Ensuite, il se recouche, tout en léchant le sang répandu sur sa bouche, et, sans daigner savoir comment il a péri, refermant ses grands yeux, meurt sans jeter un cri. J'ai reposé mon front sur mon fusil sans poudre, me prenant à penser et n'ai pu me résoudre à poursuivre sa louve et ses fils qui, tous trois, avaient voulu l'attendre et, comme je le crois, sans ces deux louveteaux, la belle et sombre veuve ne l'eût pas laissé seule subir la grande épreuve. Mais son devoir était de les sauver, afin de pouvoir leur apprendre à bien souffrir la faim, à ne jamais entrer dans le pacte des villes que l'homme a fait avec les animaux serviles qui chassent devant lui, pour avoir le coucher, les premiers possesseurs du bois et du rocher. Hélas, ai-je pensé, malgré ce grand nom d'homme, que j'ai honte de nous, débiles que nous sommes. Comment on doit quitter la vie et tous ces maux, c'est vous qui le savez, sublimes animaux. Avoir ce que l'on fut sur terre et ce qu'on laisse, seul le silence est grand, tout le reste est faiblesse. Ah, je t'ai bien compris, sauvage voyageur, et ton dernier regard m'est allé jusqu'au cœur. Il disait, si tu peux, fais que ton âme arrive à force de rester studieuse et pensive jusqu'à ce haut degré de stoïque fierté, où naissant dans les bois, j'ai tout d'abord monté. Gémir, pleurer, prier est également lâche. Fais énergiquement ta longue et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler. Puis, après, comme moi, souffre et meurs sans parler.
Je menais une vie honorable, sans un remous, sans un frisson, avec un peignoir sur le râble et au pied une paire de chaussons. Par une rare conjonction entre Vénus, Mars et Saturne, mordu par un chien taciturne, j'avais reçu l'extrême onction. Je n'allais pas passer la nuit et je faisais une drôle de tête, mais sur les 12 coups de minuit, j'ai repris du poil de la bête. J'ai déterré ma vie de garçon, la terre était légère et meuble, ma pioche en rencontrant le meuble a rendu un lugubre son. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile ma vieille peau de loup-garou pleine de trous. Les poules se sont mises à brailler comme quand le renard les dérange. Quand j'ai pris l'auto dans la grange qui leur servait de poulailler, j'avais pas touché un klaxon ni démarré ce tas de ferraille. Depuis les fameuses funérailles, j'étais pas sorti de mon caisson. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile. Ma vieille perruque de loup-garou pleine de poux, des chaussures de loup-garou pleines de boue. Qu'est-ce que j'entends? Une voix me résonne. Tu n'as plus 20 ans et tes tempes grisonnent, et tu t'en vas courir la gueuse comme un jeune homme. J'ai roulé à tombeau ouvert, et tant pis pour les hérissons qui viennent se mettre en travers. J'ai déterré ma vie de garçon, j'ai déterré ma vie de garçon. La terre était légère et aimable, ma pioche en rencontrant le meuble a rendu un lugubre son. Quand la nuit tombe sur la ville, je renfile ma vieille pelure de loup-garou pleine de trous. J'avais pour éteindre l'amour déversé le sable des jours, et malgré tout ce Sahara.
Mes histoires sont terminées pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver les références des musiques et des contes passés dans l'émission sur la page des Contes d'Albatros, sur le site www.radiocampusrennes.fr. Vous pouvez également me suivre sur Facebook. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour une nouvelle histoire. Bonne semaine à tous.